Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou. Et en 2026, laissez-vous enchanter par l'expertise, la diligence et l'attention qui incarnent l'expérience Sounou dans 17 pays. Bonne année.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Certaines professions exposent à des risques particuliers, des risques physiques ou psychiques liés à l'activité, pollution, environnement sonore, gestes répétitifs, avec à la clé des dispositifs pour en limiter l'impact. Mais pour d'autres métiers, certaines vulnérabilités font partie intégrante, définissent l'activité. Et c'est vrai quand on parle de la santé des soignants, notre sujet du jour. Comprendre les enjeux de la pratique médicale sur le bien-être de celles et de ceux qui l'exercent, et en particulier, comment faire face au quotidien à l'intensité de la charge émotionnelle, de la charge de travail, des enjeux de la maladie, responsabilité, annonce des diagnostics, issue fatale parfois. Cette vulnérabilité des soignants est-elle suffisamment prise en compte par les pouvoirs publics? Cette santé des soignants s'est-elle dégradée depuis la pandémie? Nous poserons la question à nos invités en nous interrogeant également sur le passage du statut de soignant à patient, avec ce que cela implique en termes de résistance et de non-dit. Soigner les soignants, c'est aujourd'hui dans Priorité Santé. Et c'est vrai, dans certains contextes, la pandémie de Covid-19 a constitué une épreuve inédite pour les professionnels de santé, souffrance au travail, tabou de la mort. Comment faire face, comment accompagner? Nous retrouvons dans les studios d'ICI Provence, à Aix-en-Provence, le docteur Théo Corchia. Bonjour docteur.
Bonjour, merci de m'inviter.
Vous êtes psychiatre, enseignant, maître de conférence des universités, coordonnateur du Centre expert sur la schizophrénie à l'APHM, hôpitaux Timone et Sainte-Marguerite. Et on remercie nos confrères de Radio France pour leur accueil. On retrouve également en ligne le professeur Thibaut Damy. Bonjour professeur.
Bonjour Caroline Paré, merci pour votre invitation.
Cardiologue, coordonnateur du Centre de référence nationale des amyloses cardiaques au CHU Henri Mondor de Créteil, en région parisienne. Professeur Damy, vous présidez le collectif Les Survivants. Vous nous expliquerez de quoi il retourne tout à l'heure. Et puis, le regard aussi d'Angélique Duzabé, elle est psychologue clinicienne au service des pathogastro-entérologies du CHU Campus à Lomé, membre de la Société africaine de la santé mentale. Vous pouvez bien sûr réagir en direct. Notre numéro WhatsApp, c'est le 33 7 71 18 46 41.
Priorité Santé, l'émission qui met votre bien-être au cœur des discussions.
Et la santé, si on a parlé.
Soigner, accompagner les patients, est-ce que ça peut aussi faire mal à ceux qui soignent? Avec une question en toile de fond, dans quelle mesure la santé des soignants, elle a une influence sur la qualité des soins fournis? Docteur Théo Corchia, est-ce qu'on peut dire que les professions médicales, quand on fait ces métiers, que l'on soit infirmière, aide-soignant, médecin et même étudiant en médecine, eh bien ça présente des facteurs de risque connus et identifiés pour votre spécialité, la santé mentale?
Oui, alors merci pour la question. En pratique, on le voit de plus en plus. Quand je dis qu'on le voit de plus en plus, c'est parce qu'on l'étudie de plus en plus, la santé des soignants. De façon générale, il y a quelques années en arrière, c'était quelque chose qui était assez tabou, assez tu. Et depuis assez peu de temps, malgré tout, on voit qu'il y a dans cette population, qu'elle soit étudiante, pour les étudiants en médecine notamment, les médecins, les paramédicaux, quels qu'ils soient, une augmentation par rapport à la population générale du nombre de dépressions, du nombre d'arrêts de travail pour cause d'épuisement ou de burn-out, d'augmentation notamment de prise de toxiques compensatoires dans un contexte de stress majeur. Et tous ces éléments-là, ils concourent justement à une dégradation progressive de la santé mentale.
Et dans quel cadre, vous, à titre personnel, vous prenez en charge ces patients qui sont eux-mêmes des soignants?
Alors, il y a deux réseaux différents. Un via la faculté de médecine de Marseille. Moi, je travaille en coordination du coup avec cette faculté, bien entendu, et qui peut me réorienter des étudiants lorsqu'il s'agit d'étudiants en difficulté via un conseil de faculté, ou directement via des soignants qui peuvent me contacter pour justement avoir une prise en charge qui est en général assez difficile au début, puisqu'il peut y avoir chez certains soignants ce mythe-là du soignant qui ne doit surtout pas s'arrêter, parce que s'il s'arrête, il va mettre en difficulté aussi ses patients, il va mettre en difficulté des patients qui eux aussi ne seraient pas suivis. Et donc il y a un petit peu cette quête frénétique du surtout ne pas s'arrêter, pour certains en tout cas. Et on va y venir, je l'imagine. C'est important de prendre soin de soi, bien entendu, et en particulier aussi quand on est soignant.
Vous dites un mythe, je vais un petit peu vous contredire, parce que dès le début des études de médecine, en particulier cette première année, on entend les jeunes qui disent « je ne dors pas, il faut tout donner, c'est un épuisement quasiment institutionnel ». Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je suis tout à fait d'accord. Quand je parlais de mythe, je voulais dire que dans la population en général, on pense assez peu à la santé de son médecin, de son infirmier. C'est plutôt dans ce sens-là, bien sûr, que j'entends des mythes, mais vous avez raison. Je prends en charge des étudiants qui sont, dès la première année, épuisés par un concours qui est très, très compliqué, qui est source de beaucoup de pression, pression parfois familiale, pression institutionnelle, pression à de nombreuses reprises, pression qu'on peut se mettre à soi-même aussi. Et dans ce contexte-là de pression assez importante, eh bien, on peut avoir des troubles du sommeil qui engendrent ensuite une augmentation, une majoration de la perception du stress. L'augmentation de la perception du stress va engendrer des symptômes dépressifs assez régulièrement. Et quand je dis assez régulièrement, on a plus de deux tiers des étudiants qui présentent des symptômes de dépression ou en tout cas des éléments anxieux majeurs pour plus de trois quarts d'entre eux. Donc c'est quand même des chiffres qui sont assez alarmants.
Et les consultations, docteur Théo Corchier, elles sont provoquées par qui ? Est-ce que c'est les soignants en difficulté eux-mêmes qui viennent vous voir ? Est-ce que c'est un tiers qui réfère ? Est-ce qu'il y a, c'est un petit peu une question en toile de fond, une tendance à garder pour soi et même à prendre sur soi chez les patients, chez les patients soignants ?
Très bonne question. En pratique, ça va bien sûr dépendre au niveau individuel de la personne, mais très souvent, par rapport à la population générale, je constate en tout cas dans ma pratique professionnelle que les soignants ont tendance à consulter plus tardivement que les autres. Quand je dis plus tardivement, une fois que les symptômes sont bien ancrés, on va autrement dit attendre que les éléments anxieux passent, que les troubles du sommeil rentrent dans l'ordre spontanément, ce qui est rarement le cas. Et malheureusement, comme dans de nombreux troubles psychiques, au plus on attend, au plus c'est difficile de prendre en charge, ou en tout cas, au plus la prise en charge est complexe, et quelque part, les symptômes se sont parfois un petit peu installés.
Est-ce qu'il n'y a pas un peu le syndrome aussi de dire « je suis médecin, je connais le problème, donc je n'ai pas besoin d'aller voir un confrère qui va pouvoir m'aider ».
Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Quand je dis un petit peu des deux, j'entends par là, il y a ce côté-là, je suis médecin, donc je pourrais éventuellement me traiter. Et en même temps, il y a l'autre élément qui est « si je m'arrête ». Qu'est-ce qu'il en est pour mes patients ? Et ça, ça marche pour les médecins, mais ça marche aussi pour tous les soignants, quels qu'ils soient, quelle que soit leur profession. Si je m'arrête, comment fait mon service pour fonctionner sans moi ? Comment, si je suis infirmière libérale, comment vont gérer mes patients ? À qui je dois donner les traitements ? On le sait, malheureusement, dans de nombreux endroits dans le monde, un sous-effectif en termes de soignants. Donc on a aussi cette culpabilité-là qui se rajoute.
Alors, vous restez avec nous à Aix-en-Provence, hein, docteur Corchia, vous pouvez réagir quand vous le souhaitez. On retrouve en ligne le professeur Thibaut Damy, que j'ai salué tout à l'heure. Professeur Damy, on vous a invité régulièrement dans l'émission pour parler de votre spécialité, les amyloses cardiaques, puisque vous êtes le coordinateur du centre de référence à Henri Mondor à Créteil, ce grand hôpital, cardiologue donc, et aujourd'hui président d'un collectif qui s'appelle les survivants. Est-ce que vous pouvez nous permettre, s'il vous plaît, d'en cerner les contours, les survivants, c'est quoi, c'est qui ?
Alors, les survivants, c'est les soignants et les patients éventuellement, mais les familles en fait qui ont eu à vivre le décès d'un patient ou d'un proche et qui vont survivre en quelque sorte à ce décès et ne pas aller vers un deuil pathologique.
Est-ce que vous vous considérez, professeur, vous-même, comme l'un de ces survivants ?
Tout à fait, ainsi que de nombreux soignants que j'ai rencontrés. Lorsque l'on est soumis en tant que soignant à des décès, à un grand nombre de décès ou à un décès unique mais qui peut être traumatisant, on peut développer effectivement des troubles psychiques. Et donc j'ai moi-même développé un trauma vicariant et un burn-out il y a quelques années qui m'a permis justement de réfléchir à tout ça et de réfléchir à comment prévenir cet impact du soin sur les soignants qui est lié finalement à la souffrance ou à son paroxysme, le décès des patients, et comment donc le prévenir, mais aussi comment identifier et traiter, comme le disait le Dr Corchia, les soignants qui en ont besoin, mais l'idéal étant bien sûr de prévenir et d'améliorer. Mmh. Et évidemment, comme on le disait tout à l'heure, un soignant qui ne va pas bien, un soignant qui est épuisé, un soignant qui n'a pas été formé à encadrer la fin de vie et la mort et qui est soumis à tout ça, et ben évidemment, ça va avoir un impact sur les patients, sur les familles, sur les soignants eux-mêmes au sens très large. Il n'y a pas que les médecins, comme vous l'avez souligné, mais les paramédicaux. et évidemment avoir des conséquences sur la prise en charge en fait globale. C'est vraiment un enjeu de santé publique en fait. Okay. Et c'est le problème majeur en France, hein, c'est que la mort a été transférée à l'hôpital. Hein, 60% des Français vont décéder à l'hôpital, mais ce n'est pas une mission reconnue de l'hôpital, donc il n'y a aucun programme vraiment pour encadrer ces patients. Je sais que ça va surprendre beaucoup de monde, mais c'est une réalité. Et ni en fait ni développer des programmes préventifs pour les soignants qui vont être soumis à la mort à haute dose dans leur service.
Alors, dans votre cas personnel, et encore une fois, je dis la même chose aux auditeurs quand ils appellent, si vous n'avez pas envie de répondre, professeur Damy, vous gardez ce qui est personnel pour vous. La période de la pandémie vous a contraint, vous, à vous arrêter. À ce moment-là, qu'est-ce qui était insupportable et ce que vous aviez en quelque sorte supporté jusque-là ?
Moi, c'est arrivé avant, mais ouais. La pandémie, effectivement, a été terrible pour beaucoup de soignants. Hein. En 2025, là, au printemps, il y avait encore un quart des lits qui étaient fermés dans certains grands hôpitaux liés à un défaut de soignants. Et donc, parce que les soignants ont quitté leur métier, hein, notamment beaucoup de paramédicaux. Pourquoi ? Bah, parce que ce sont des soignants qui étaient dans des services pour lesquels ils avaient fait le choix de cette spécialité, le choix de ce service, souvent pour ne pas forcément être confrontés à la fin de vie ou la mort, ou pour faire des actes techniques. Et le Covid a obligé tous les hôpitaux à se réorganiser et à centrer, en fait, évidemment, le soin dans les zones où il y avait beaucoup de patients covidés sur le Covid et malheureusement à être soumis dans certains cas à la mort à haute dose hein, et au risque d'être soi-même d'ailleurs contaminé et de se retrouver dans le lit du patient à la place du patient qu'on voit éventuellement partir sans avoir de ressources. Et on voit bien donc l'enjeu de l'impact de la mort et comment ça peut jouer en fait sur les soignants et aboutir justement à la défection des soignants.
Et vous êtes allé au-delà justement de ce travail de regroupement d'écoute puisque vous avez travaillé sur un rapport avec des chiffres, avec une enquête pour comprendre cet impact de ces tensions, notamment émotionnelles pour les soignants. Et vous avez constaté, hein, ces chiffres sont absolument édifiants, 93% des professionnels de santé n'ont jamais été préparés à l'accompagnement de la fin de vie. Ça reflète d'ailleurs ce qu'on vit dans notre société. Le jour où la mort arrive, on n'y est absolument pas préparé, la mort ne fait pas partie de nos existences.
Alors ça, c'est vrai dans la culture française, hein, oui. Voilà, c'est pas vrai dans tous les pays absolument. Du monde, mais effectivement, la mort est sortie en fait de la vie publique. En fait, je pense qu'il y a vraiment un problème en France où la mort ne fait pas partie de la vie, donc c'est vraiment ennuyeux dans le sens où savoir qu'on est mortel, ça donne du sens à la vie, hein. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie ? Mais du coup, quand elle arrive, les gens sont terrorisés, et il y a beaucoup de violence des familles et des patients quand ils découvrent qu'ils sont mortels et qu'ils vont éventuellement décéder. Et puis évidemment, les soignants font partie de cette société en France, donc ils sont dans ce tabou. Et donc dans les études, tout est quasiment basé dans les spécialités sur des actes, la réalisation d'actes thérapeutiques, de soins, etc., de prescriptions. Et la mort a été mise dans une entité, évidemment, qui s'appelle soins palliatifs et où la mort est gérée et la fin de vie de manière exceptionnelle. Mais du coup, vous voyez, elle a été déléguée. Et donc, du coup, elle ne fait plus partie même du soin. Et donc, le soin s'arrête quand il n'y a plus d'actes et de prescriptions et quand la mort s'annonce ou la fin de vie, il faut prendre en charge la fin de vie. Les soignants sont très souvent totalement désemparés et n'anticipent pas cette mort et ne confient pas forcément les patients en soins palliatifs de peur de l'annoncer. Donc il y a vraiment des enjeux majeurs à vraiment donner cette mission à l'hôpital pour pouvoir anticiper la fin de vie et la mort, accompagner les patients, qu'il y ait moins de souffrance chez les soignants. Parce qu'en accompagnant les patients correctement, en étant formé, en fait, on peut avoir un sentiment d'accomplissement et de recevoir de la gratitude des familles quand les choses sont bien faites, au lieu de recevoir de la violence d'un suivi, d'un soin mal ou d'un mauvais accompagnement jusqu'au bout de la vie.
Docteur Théo Korchia, les limites du soin, de la guérison, la fin de vie, cette appréhension de la mort, forcément, on vit des moments, des émotions très particulières. Est-ce que c'est une question que vous abordez également avec ces patients soignants que vous suivez ?
Oui, c'est une question qui est centrale, d'autant plus dans ma pratique en tant que psychiatre, puisque nous, on va aussi avoir la question des idées noires, des idées morbides, qui peut aller jusqu'à des idées suicidaires. Et donc, dans ce type de contexte-là, bien sûr que la mort, elle peut être au centre, parfois, de certaines préoccupations. Il y a aussi un élément important qui est le tabou, que le professeur Damy soulignait très, très, très justement aussi, en particulier qu'on va retrouver, nous, en santé mentale et en psychiatrie, qui est le fait que certains soignants vont avoir... comme un changement entre le rôle de soignant et le rôle de soigné. Cette bascule, elle est souvent très très difficile, déjà en termes personnels, mais aussi en termes institutionnels, quand on travaille à l'hôpital, quand on travaille en clinique, quand on travaille en collectivité avec d'autres personnes, justement ce type de bascule est complexe. Imaginez être hospitalisé dans un endroit où on a travaillé, bien sûr que c'est compliqué. Quand on évoque la question de la mort, quand on évoque la question des idées noires, aller verbaliser ça alors qu'on a l'habitude au quotidien, de faire verbaliser les autres, c'est un exercice qui est loin d'être évident. Pour autant, on le sait aussi en santé mentale, le fait de commencer à évoquer ces problématiques-là, le fait de commencer à en parler, c'est le début de la prise en charge indispensable. Malheureusement, on a eu trop de soignants qui se sont fait du mal, qui ont fait des tentatives de suicide sans avoir jamais eu l'occasion de parler de ça. Et donc, c'est aussi pour ça que je vous remercie aujourd'hui. L'occasion d'ouvrir un petit peu le débat, d'ouvrir le dialogue sur cette thématique-là qui est très, très taboue une fois de plus, mais qui pour autant permet d'ouvrir les vannes et de pouvoir parler de ces souffrances-là de soignants qui sont encore une fois, comme le professeur Damy l'a souligné, très 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 fréquentes et qui gagneraient à être prises en charge, d'autant plus que, point optimiste, lorsqu'on prend en charge rapidement, on a derrière une guérison qui est extrêmement rapide et fréquente également. Donc le plus souvent, plutôt que de garder cette souffrance-là lorsqu'on sent qu'elle s'installe, il vaut mieux pouvoir la verbaliser pour deux raisons. Un, au niveau personnel, améliorer rapidement sa santé psychique, et deux, lorsqu'il y avait une culpabilité par rapport à ses patients, se dire « je fais une pause, même brève, pour après revenir et être beaucoup plus performant et beaucoup plus aidant par rapport aux patients que j'encadre et que je soutiens. »
Revenir et mieux soigner, professeur Thibaud Damy, dernière question. Quand vous parlez, ça m'évoque, ça fait référence à une autre expression, droit à mourir dans la dignité. J'ai envie de dire droit de soigner dignement jusqu'à la fin. Est-ce que, selon vous, votre initiative, elle a déjà permis d'amorcer certains changements ou c'est encore trop tôt ?
Alors, c'est évidemment trop tôt. J'ai fait une longue marche où j'ai rencontré des centaines de soignants et des centaines de Français, donc on avance avec ce collectif. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est arriver à changer notre culture socio-professionnelle, ce regard où la mort ne fait plus partie du soin, ce qui est vraiment complètement paradoxal et encore incompréhensible, je pense, pour beaucoup de vos auditeurs, mais c'est une réalité, pour la réintégrer dans le soin, dans chaque spécialité. Et on avance. Le nombre de conférences qu'on me demande de faire, de pouvoir partager le vécu, mon vécu, le vécu de mon équipe et ce qu'on a de tiré de tout ça. Et encore une fois, nous sommes tous mortels. Nos patients, malheureusement, vont tous décéder un jour, nous aussi. Et c'est bien aussi l'idée même de la projection de la mort qui traumatise le soignant, c'est de le réaliser, en fait, qu'il est lui-même mortel en voyant ses patients décéder. C'est toute cette complexité, comme l'a dit le professeur Corsia, et c'est extrêmement compliqué. On n'est pas formé, et donc il faut essayer d'améliorer les choses, former évidemment nos jeunes, mais aussi former tous ceux qui sont sur le terrain pour pouvoir les garder dans le soin. Et comme ici a été dit, c'est primordial en fait de prendre soin des soignants parce que les soignants comprennent qu'il faut prendre soin d'eux. Parce que quand on va bien, ben on est beaucoup plus performant. Et le problème actuel, c'est notamment au sujet de la mort, c'est soignants épuisés, mal formés, familles mal menées. Donc c'est vraiment un enjeu de santé publique.
Un enjeu de système aussi. Merci beaucoup, professeur Thibaud Damy, pour cet échange. Docteur Corsia, on va se retrouver dans quelques minutes. On donnera la parole à des auditeurs et à l'une de vos consoeurs, à Lomé, juste après ce titre de T. Sacred Souls, Easier Said Than Done sur RFI. Show me.
I said just trust the way you feel. She said that's easier said than done. Well, it is.
Soigner les soignants aujourd'hui dans Priorité Santé sur RFI, épuisement émotionnel, perte de repères. On continue d'échanger avec le docteur Théo Corchia, psychiatre qui travaille depuis plus de 7 ans sur cette question de la santé psychique des professionnels de santé. Alors docteur Corchia, est-ce que les plaintes, les facteurs de souffrance sont assez différents en fonction des métiers du soin ? Aide-soignant, infirmière, interne, médecin, est-ce qu'il y a des maladies propres à chaque métier du soin ?
Je pense qu'il y a surtout des augmentations des facteurs de risque. Une pression qui peut être plus importante sur le plan professionnel, mais encore une fois, il n'y a pas que les médecins ou pas que les soignants qui ressentent une pression professionnelle, bien entendu. Mais lorsque cette pression, elle, est centrée sur la mort, dont parlait le professeur Damy, de potentiel certains patients, lorsqu'elle est centrée sur la santé, et on sait l'importance que revêt bien sûr la santé dans la population générale, et c'est normal, bien sûr que cette pression, elle devient tout de suite plus importante. On a également des études qui sont relativement longues, entre 10 et 11 ans, pour un socle général et global, que ce soit médecin généraliste ou spécialiste, et donc à partir de là, cette pression, elle va être accumulée, elle va être, encore une fois, assez longue et progressive, et elle peut concourir à une souffrance au fur et à mesure des études, si elle n'est pas présente, parfois déjà dès le début des études. Autre élément important, c'est que ces symptômes, ils vont être marqués dans ce qu'on appelle des signes prodromaux qui vont inaugurer et être parfois à l'origine de troubles psychiques. Ça va être au début des choses assez légères qu'on ne détecte pas forcément ou qu'on n'identifie pas comme des facteurs de risque. Je veux parler par exemple des facteurs de sommeil, je veux parler des troubles alimentaires, on pourrait imaginer les liens avec le stress également. Un élément aussi central qu'on appelle l'anhédonie, donc la disparition des plaisirs, qui paraît au début presque inhérente aux études longues et aux moments stressants dans la vie où on se dit je ressens plus trop de plaisir, j'ai plus grand chose qui me fait plaisir quand je rentre du boulot le soir. Mais en fait, c'est pour autant un symptôme capital. Capital parce qu'on sait que le système du plaisir au niveau de l'organisme, au niveau cérébral, va freiner le système amygdalien du stress et que si on éprouve trop peu de plaisir, si on n'est plus en capacité justement d'avoir des moments de joie, des moments agréables, quel qu'il soit, que ce soit lié à des choses parfois toutes simples, alimentaires, relationnelles, peu importe, eh bien on va naturellement faire augmenter son système de stress, être plus sensible aux ruminations, plus sensible aux pensées de dévalorisation, de culpabilité, et ainsi de suite, et vous le voyez, progressivement arriver vers une symptomatologie dépressive ou une symptomatologie anxieuse qui peut être, elle, ancrée et nécessiter une prise en charge.
On va tout de suite donner la parole à nos premiers témoins.
Priorité santé.
Parce que la santé est la priorité de tout le monde.
Et au Niger, à Maradi, on vous retrouve. Abbas, bonjour.
Bonjour, Caroline.
23 ans, la future génération qui va nous soigner, étudiant en médecine. Et pour vous, Abbas, quelles sont les conditions nécessaires pour un médecin, mais aussi pour un soignant, pour tenir sur la longueur en exerçant ce métier? Vous en êtes au tout début.
Effectivement, et tout d'abord, merci beaucoup pour la parole. J'aime aussi dire bonjour à tous les auditeurs et aux auditrices. Alors, maintenant, je vais d'abord commencer par les étudiants.
Oui.
Et comme le professeur l'a si bien dit, et au cours des études longues, notamment la médecine, on a bien sûr à subir une certaine pression, notamment au niveau du sommeil. On en manque, par exemple, on dort très peu. Et au niveau alimentaire, on mange très peu. Souvent, ça peut nous créer... nous donner des troubles digestifs, notamment l'ulcère. Et donc, pour ne citer que ça, il y a tellement de troubles qu'on peut avoir au cours de ces études.
Est-ce que vous, à titre personnel, Abbas, vous avez déjà été contraint de négliger votre vie personnelle, votre qualité de vie à cause du poids de ces études?
Effectivement, parce qu'il m'arrive souvent d'être égoïste de mon temps. Quand je dis ça, je vais dire que souvent, je n'ai pas trop le temps de bien marcher, de bien manger, excusez-moi, de bien marcher. Le temps que ça prend vraiment, moi je trouve que c'est trop long, vu que je dois apprendre ceci, je dois finir ceci, c'est là, dans la même journée. Et puis le sommeil, si je me dis, bon, je vais dormir 7 heures, 6 heures comme tout le monde, je ne vais vraiment pas arriver à finir ce que je me suis programmé la journée. Et tout ça, vraiment, c'est quelque chose que je vis actuellement.
Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça, cette qualité de vie, ce confort que vous n'avez pas finalement, et toute cette pression? Et on l'a compris, hein, vous voulez vraiment être médecin. Donc tout ça, vous êtes un petit peu obligé à subir ça. C'est quoi vos questions, Abbas?
Bon, la question, d'abord, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a, comment on appelle ça, une règle, ou bien, si j'aime le dire, une méthode qu'on peut utiliser étant étudiant, étant vraiment dans une sorte de pression tout le temps pour pouvoir gérer à la fois sa vie personnelle et sa vie étudiantine en fait.
Bah, on comprend, il faut poser des limites. Il y a le temps des études, puis il y a le temps pour soi. Docteur Théo Corchia, on le disait tout à l'heure, hein, les étudiants aussi, ils sont soumis à une pression très intense. Après, quand on est interne, il y a les gardes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Abbas si lui-même, il a conscience déjà du problème? C'est déjà pas mal d'en avoir conscience. Mais après, pour passer aux travaux pratiques, pour se préserver?
La première chose, et il le décrit extrêmement bien, c'est qu'il y a une forme de cercle vicieux dans les études médicales, à savoir qu'on se dit, j'ai énormément de choses à apprendre, j'ai une pression éventuelle de certains concours, j'ai, quoi qu'il arrive, une charge monumentale en termes d'apprentissage, je peux avoir une pression par rapport aux patients que je rencontre en stage et autres, mais tout ça concourt au fait qu'on se dit, j'ai une nécessité de gain de temps. Et ce gain de temps, on va le faire sur le sommeil, on va le faire sur ses activités physiques, on va le faire sur le temps qu'on pourrait avoir avec ses amis ou sa famille. Donc on va essayer de réduire au maximum les moments de plaisir. Le problème quand on fait ça, quand on réduit son sommeil, quand on réduit son temps alimentaire, quand on fait moins attention à soi, c'est que progressivement, en fait, on va être aussi beaucoup moins performant. On sait ce que fait sur l'organisme maintenant les troubles du sommeil ou ce que peuvent faire également les troubles alimentaires. Je vous en parlais juste avant pour ce qui est des diminutions de plaisir. Et donc progressivement, on va être moins performant. En étant moins performant, on va avoir l'impression qu'il nous faut encore plus de temps. Et ce mécanisme fait qu'on est un petit peu dans un cercle vicieux qui se met en place et qui est progressivement de plus en plus envahissant. On a l'impression qu'entre ces 17, 18, 20 ans et ces 27, 28, 30 ans, on a passé potentiellement jusqu'à 10 ans, un peu dans les livres, un petit peu de façon extrêmement stressante, et on se dit, mais je perds un temps incroyable alors que je pourrais profiter de ces années qui sont quand même assez fantastiques entre 20 et 30 ans. Pour essayer de se sortir de ce système-là, un des points essentiels, c'est, un, et votre auditeur l'a très bien dit, d'en avoir conscience, en ayant conscience de changer ce mode de vie. Changer ce mode de vie, ça ne veut pas dire ne plus travailler, ça veut dire garder en tête que le sommeil, par exemple, est un facteur essentiel pour la mémorisation. À chaque fois que je vais diminuer mon sommeil pour travailler, je fais quelque chose de contre-productif. Essayons au contraire de se dire que je vais garder un minimum d'heures de sommeil, bien sûr propre à chacun, pour ne pas transiger là-dessus, pour ne pas concourir à ce cercle vicieux qui se met en place. Pareil pour les éléments alimentaires. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que au lieu d'être dans une recherche de temps global, essayons d'être dans une amélioration du temps qualitatif. Et que ce temps d'apprentissage, et je suis convaincu que votre auditeur, mais je lui laisserai la parole bien sûr, l'aura remarqué, quand il est plus en forme, quand il a mieux dormi, quand il est moins, disons, sous pression, et qu'on n'est pas dans une période énorme en termes de stress, eh bien, sans doute que la mémorisation, sans doute que la concentration est bien plus efficace.
Donc, gagner en efficacité, en sanctuarisant du temps pour soi. On remercie beaucoup Abbas pour son appel. On a un autre confrère du Tchad, Seyd Babacar. Il est médecin généraliste dans la région de Salamat. C'est tout au sud, à la frontière de la République centrafricaine. Il témoigne, il explique que beaucoup de ses confrères prennent leur santé à la légère à cause de la surcharge de travail. Et il se retrouve lui-même seul à soigner toute une région. Il n'arrive pas à dégager du temps pour s'occuper de sa propre santé. Et maintenant, c'est en République démocratique du Congo, à Kananga, qu'on retrouve Marlène. Alors, une grande ville du Kasaï, centrale près de l'Angola. Bonjour Marlène, vous êtes médecin généraliste.
Bonjour, bonjour Madame Louis.
Alors vous travaillez dans quel type de structure, Marlène ?
Je travaille dans un centre de santé de référence, Kamulumba Eta, qui est en partenariat avec l'hôpital général de référence de Kananga.
Est-ce que vous avez le sentiment, Marlène, de faire attention à votre propre santé ?
La santé des soignants, pour moi, je trouve que par rapport à mes impressions et à mon témoignage personnel, le soignant se néglige. Se néglige pourquoi ? Parce qu'ils mettent la santé des patients au premier plan et alors c'est la santé de soignants qui est au second plan.
Est-ce que vous avez été témoin de ça dans votre propre entourage, Marlène, à savoir vous avez vu des consoeurs ou des confrères être de plus en plus vulnérables, voire de plus en plus malades, et ils ne se sont pas pris en charge à temps?
Il y a un cas marquant. D'ailleurs, on a enterré une femme médecin l'année passée qui était atteinte d'un cancer du sein, qui a continué à soigner les malades jusqu'aux dernières heures de sa vie. Là, ce sont les membres de la communauté qui pleuraient et qui ont montré des témoignages de Voice où cette femme était en train de consulter les enfants parce qu'elle était presque une pédiatre pour toute la ville. Elle a beaucoup travaillé dans les services de pédiatrie. Elle était presque la pédiatre de tous les enfants de Kananga. Alors, elle consultait même sur la route, à la maison. Il y a des mamans qui la suivaient jusqu'à la maison et on ne savait pas qu'elle était malade. Elle n'a pas bénéficié d'une prise en charge précoce qui est spécialisée pour son état. En principe, elle devrait être transférée vers la capitale. Est-ce que ce sont les moyens qui ont manqué? Est-ce que c'est parce qu'elle était surchargée, surmenée? Ou bien c'est le fait de considérer déjà cette maladie comme une origine, une maladie mythique? Parce qu'il y a beaucoup de mythes et de rumeurs autour du cancer de sein. Récemment, quand on a fait la campagne sur la lutte contre le cancer, Octobre rose, mais il y a des femmes qui vous souffrent dans le silence. Pourquoi ? Parce que les gens pensent que c'est une maladie diabolique. Du coup, les gens refusent de se montrer cette maladie. Et nous avons appris que la consoeur, elle s'est carrément réfugiée à l'église. Pour elle, c'était des prières intenses qui pouvaient la sauver, mais malheureusement, elle a adhéré au traitement en retard et c'était déjà un stade très avancé. Nous l'avons perdue. Donc, ces cas illustrent que le déni de la maladie chez les soignants, mais aussi l'influence des croyances et la difficulté même de se positionner comme patient pose sérieusement le problème.
Vous proposez parfaitement les choses, Marlène, on comprend. Il y a une sorte de sentiment sacrificiel chez certains soignants. Est-ce qu'il y a d'autres freins? Par exemple, dans votre contexte en RDC, on sait qu'y compris les soignants ne gagnent pas grand-chose et du coup, pour payer les soins, ce n'est pas du tout évident.
Exact. Il y a aussi un accès très limité pour le soin spécialisé. Ici, à Kananga, par exemple, il n'y a pas de scanner. On nous a doté un scanner qui n'est pas toujours fonctionnel. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'IRM, il n'y a pas de TDM, il n'y a pas de mammographie. Il n'y a pas beaucoup. Donc, le plateau technique est très limité, ce qui fait que quand il y a des maladies dégénératives, il y a des maladies chroniques, normalement, il faut un transfert vers Kinshasa. Je me rappelle qu'on a eu à se cotiser entre nous, les corps soignants, pour pouvoir transférer un collègue qui avait connu un accident et il avait un traumatisme crânio-encéphalique. Il était dans un coma et pourtant il travaillait dans la brousse. Il devait venir ici sur la ville pour avoir accès à sa prime parce que la prime ici, il faut aller à la banque. Dans la brousse, il n'y a pas de banque. Et pendant qu'il prenait sa moto pour venir, il a fait un accident. Ils n'avaient pas assez de moyens. Nous nous sommes cotisés pour le transférer à Kinshasa. Et à Kinshasa, ça a coûté des millions et des millions jusqu'à ce qu'il est, il est parti, on l'a perdu, il est décédé. Donc, même à Kinshasa, même ici sur place, les soins de base, on a accès. Le soin de base, ça veut dire quoi? Juste un bilan inflammatoire, la goutte épaisse, la formule écocytaire, les globules blancs. Et c'est tout. S'il faut faire la biochimie, s'il faut faire la fonction rénale, là, le médecin ou le corps soignant, tu dois payer. Et aussi, en rapport avec les médicaments, il n'y a que les médicaments génériques dont tu as accès parce que là, c'est disponible dans la pharmacie de la structure où tu travailles. Mais généralement, la prescription médicale ne va pas tenir compte des médicaments disponibles. Vous serez obligé d'acheter vous-même les médicaments.
Ce qu'on on vous entend, Marlène, ce qu'on entend, c'est que les soignants, finalement, sont des patients comme les autres, confrontés aux mêmes difficultés. Et donc, ça fait perdre encore du personnel soignant dans des pays qui sont déjà en très, très gros déficit d'effectifs par rapport à ces personnels médicaux. C'est totalement regrettable. En tout cas, merci infiniment pour ce témoignage. Marlène, très bonne journée à Kananga. Docteur Théo Korchia, bien sûr, vous êtes psychiatre, c'est la santé mentale, mais là on voit que ça va extrêmement loin, puisque des soignants payent de leur vie parce qu'ils manquent de moyens, mais aussi parce qu'ils sont là pour leurs propres patients et qu'ils ne prennent pas soin d'eux.
Oui, c'est un témoignage que j'ai trouvé bouleversant, incroyablement utile, et merci encore une fois pour ce témoignage, bien sûr, parce qu'il montre ô combien la vocation est opposée à la santé mentale parfois, à sa propre santé mentale. La soignante qui était évoquée et qui est décédée avait l'air d'être une soignante, encore une fois, remarquable à plus d'un titre sur le plan professionnel. L'auditrice expliquait que c'était une soignante qui était presque suivie par ses patients tellement elle était surchargée de travail. Et on l'imagine justement dans ce type de situation, encore une fois, avec peu de moyens à disposition pour pouvoir exercer son métier dans les meilleures dispositions, mais pour autant tout faire pour être la meilleure soignante possible. Eh bien, lorsqu'on est touché personnellement dans sa chair par une maladie comme le cancer, on doit se poser la question, qu'est-ce que je fais pour mes patients, qu'est-ce que je fais pour moi, et à quel point est-ce que je mets le curseur vers moi, vers mes patients. Et on a l'impression justement que si on le met trop vers soi, ce curseur, on va en faire pâtir ses patients. Un des soucis majeurs, c'est que justement, si on ne le fait pas du tout par définition, on ne va pas pouvoir prendre soin des autres. Alors c'est extrêmement difficile à dire, extrêmement difficile à faire, bien entendu, et je ne veux pas du tout avoir la prétention de donner une quelconque leçon de morale à qui que ce soit, encore moins aux soignants, mais simplement rappeler des choses simples, rappeler le fait que en prenant davantage soin de soi, en prenant davantage soin de sa santé psychique, même si c'est tabou, c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir mieux prendre soin des autres, mieux respecter, si j'ose dire, sa vocation, encore une fois, mais ne pas opposer le soin des autres et sa propre santé. Ça me paraît extrêmement important, et dans ce témoignage, c'est ce que j'ai trouvé aussi particulièrement beau et bouleversant en même temps.
On va partir tout de suite pour le Togo.
Priorité santé.
L'émission qui met votre bien-être au cœur des discussions.
Sur RFI.
Et en ligne avec nous tout de suite, Angélique Douzabé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne au service d'hépato-gastro-entérologie du CHU Campus de Lomé, chercheur, membre, entre autres, de la Société africaine de santé mentale. Est-ce qu'il vous arrive, à vous, de prendre en charge des soignants qui exercent au sein de votre propre service hospitalier, Angélique Douzabé?
Oui, c'est vrai. Il arrive à ce que les soignants fassent la demande. Mais ce n'est pas quelque chose qui date de longtemps. Il y a toujours eu des fuites. Mais aujourd'hui, on a fait ce qu'on appelle une sensibilisation autour de chaque service pour faire comprendre que la santé mentale, ce n'est pas une faiblesse. Il faut se faire consulter, il faut se faire soigner. Et oui, on a eu des gens qui font eux-mêmes la démarche.
Ça veut dire que vous êtes allé de service en service au CHU, vous avez fait passer le message, maintenant les soignants savent que vous êtes disponible, votre porte est ouverte, s'ils ont un problème, ils peuvent venir vous voir, c'est ça?
Bien sûr, parce qu'en fait, peut-être la particularité à Lomé ou au Togo, c'est que, par exemple, dans chaque CHU et chaque service spécialisé a son psychologue. Et donc, ils savent, vous travaillez avec eux, Bon, ils ne sont pas obligés de venir vous consulter. Ils peuvent consulter un autre psychologue dans l'autre service ou dans le service de psychiatrie. Mais il y a cette sensibilisation qui est vraiment faite auprès des soignants, bien qu'on sait que bon, les gens viennent, ils prennent des rendez-vous, ils ne viennent pas, ils reportent. Mmh. On constate, il y a cette fuite quand mmh. même qui est constatée.
Est-ce qu'il y a certaines spécialités médicales qui bénéficient d'un mmh. accompagnement particulier parce qu'il y a une très forte exposition au risque?
Alors, il n'y a pas d'accompagnement spécifique comme ça, parce qu'il n'y a pas, par exemple, un psychologue clinicien pour le personnel dans l'ensemble. Donc, c'est la personne qui a un souci qui vient, ou bien quand le chef de service, ou bien quand le médecin constate qu'il y a tel patient, tel soignant, il consomme de l'alcool ou bien il s'absente et qu'on l'envoie peut-être en consultation. Mais il faut noter quand même aussi qu'il y a eu depuis peu la création des comités sécurité santé au travail qui est fait de médecins, du travail interniste, psychologue, du travail et tout, et où les gens sont invités à se rendre quand ils ont des soucis, que ça soit lié à tous les risques psychosociaux, y compris la santé mentale au travail. Mmh. Et ces perso-comités-là peuvent les envoyer facilement aussi en consultation, demander une consultation psychologique ou psychiatrique.
Angélique Duzabé, en préparant cette émission, vous avez expliqué que pour une pratique particulière, celle des urgences, face au risque de trauma et de psychotrauma, là, il y avait un accompagnement dédié. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Alors, c'est vrai que depuis la COVID, on a vu la détresse des soignants et il a été organisé au sein du Centre des opérations d'urgence de santé publique une prise en charge de santé mentale de tous les soignants qui sont au front, c'est-à-dire qui sont confrontés à des difficultés, à des épidémies, à des pandémies ou d'autres catastrophes. Ils bénéficient directement d'une prise en charge psychologique au cours de leur opération, mais même après.
Donc, à ce moment-là, ils vous parlent de ces traumas, des symptômes. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces personnels des urgences? Il nous reste une minute environ.
Alors, la difficulté, c'est la découverte, la nouveauté ou bien la gravité de ce qu'ils ont vécu. Peut-être c'est une première expérience, ce qui amène à un traumatisme. Et donc, certains, des fois, on est obligé de demander au médecin du travail de revoir le cas et certains sont réaffectés ou ne peuvent plus peut-être participer à ce genre de mission. Voilà.
Un grand merci pour votre éclairage, hein, Angélique Duzabé. Très bonne journée à Lomé. On vous retrouve à Aix-en-Provence dans les studios chez nos confrères de Radio France, docteur Théo Corchia. Une question aussi sur les problèmes structurels. On a parlé du surmenage, on a parlé des études. C'est vrai qu'on dit qu'en France, depuis plusieurs années, l'hôpital et l'hôpital public va mal. Est-ce que ça aussi, ça pèse sur la santé mentale des soignants?
Doublement. Ça pèse doublement parce que d'abord, directement, la charge de travail est plus importante. Il y a de plus en plus de patients, de moins en moins de professionnels de santé. Donc on le comprend très logiquement, il y a de plus en plus de difficultés à prendre en charge tous ces patients. Et je disais doublement puisque indirectement, lorsqu'on va justement être épuisé par cette charge de travail qui augmente, on va avoir encore plus de culpabilité à se dire, mais si je m'arrête, je laisse les confrères et consoeurs en difficulté puisque du coup, il y a une personne de moins encore pour pouvoir aider tous ces patients. Donc ce contexte-là de démographie médicale et paramédicale qui diminue est un facteur qui va malheureusement aggraver la santé mentale des soignants.
Et on souligne aussi souvent à l'hôpital l'importance du travail d'équipe, de la collégialité, du travail d'entraide. On peut imaginer que pour un hôpital en crise, c'est aussi quelque chose qui est fragilisé.
Exactement, c'est fragilisé. Alors, les témoignages qui étaient faits sont assez forts en ce sens. Il doit et il continue d'y avoir une entraide, mais par moment, dans certaines situations, cette entraide-là, elle est un peu plus fragile, en effet, en particulier lorsqu'on va avoir des situations de crise. La crise du Covid nous l'a bien montré. Lorsqu'on a des soignants qui s'arrêtent et lorsqu'on se dit on n'était que 3 infirmiers, par exemple, pour une unité, si on en a plusieurs qui sont obligés de s'arrêter pour prendre soin de leur santé, comment on fait pour les patients qui restent? Évidemment, ça rajoute un petit peu de tension, ça rajoute des difficultés, mais malgré tout, c'est important et indispensable de prendre soin de sa santé mentale avant de prendre soin de celle des autres.
Une dernière minute pour vraiment insister sur le dossier prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? On a entendu ce besoin d'écoute, ce besoin de soins pour améliorer cette qualité de vie des soignants au travail et leur santé mentale.
Oui, les témoignages qu'on a entendus qui viennent du Tchad, de RDC ou du Niger rappellent une chose à mon avis essentielle, c'est que les soignants, c'est des humains avant d'être des professionnels de santé. Ils vont porter une forme de fatigue, de responsabilité, parfois une solitude, et trop souvent, ils mettent leur propre santé au dernier plan. Prendre soin de soi quand on est soignant, c'est pas un luxe, c'est encore moins un caprice, et c'est pas un signe de faiblesse du tout, comme ça a été dit à l'instant. C'est une condition indispensable pour pouvoir continuer à bien soigner les autres durablement dans le temps. Ça commence par des choses simples, mais fondamentales pour autant. On l'a dit, dormir suffisamment, respecter son temps de repos, préserver des moments de plaisir, de lien, de vie professionnelle, affective, personnelle. Et ce sont ces ressources-là, en fait, qui vont protéger l'équilibre psychique, la lucidité, l'empathie et le lien fort, l'alliance thérapeutique avec les patients. Ça suppose de changer et de passer d'une culture du sacrifice permanent, de reconnaître l'épuisement, d'oser demander de l'aide, de construire des organisations qui peuvent protéger réellement les professionnels, notamment au niveau local, au niveau institutionnel, vous l'évoquiez à l'instant. Autrement dit, la santé des soignants, c'est un enjeu de santé publique avant d'être une problématique propre au soignant lui-même. Ça ne doit plus être un tabou. Et donc protéger ceux qui soignent, pour conclure là-dessus, c'est d'abord protéger l'ensemble de la société, vu que ce sont les soignants qui finiront par soigner tout le monde, y compris parfois eux-mêmes.
Je vous le dis sans flagornerie, quand on vous écoute, docteur Théo Korchia, on a envie d'aller chez le psy. Merci beaucoup pour votre éclairage. Merci aussi à nos confrères de Radio France Aix-en-Provence de vous avoir accueillis dans leur studio. Avant de nous dire tout à fait au revoir, on écoute Xolario avec ce titre, Tourisa sur RFI. Priorité santé, c'est fini. Merci à toute l'équipe, Ophélie Lassen, Talim Pou, Louise Calédec, Inès Emprin, Victor Hull, Hugo Vallière à la réalisation. Demain, nous allons parler des risques associés à l'automédication. Prendre un médicament sans avis médical, c'est une pratique courante, mais ça peut avoir des conséquences indésirables, surdosage, antibiorésistance, interaction médicamenteuse avec des risques notamment pour les reins. Comment faire la part des choses ? On se donne rendez-vous à 9h10, temps universel. D'ici là, restez bien sûr à l'écoute de RFI et surtout, surtout, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec le groupe Sounou. Et en 2026, laissez-vous enchanter par l'expertise, la diligence et l'attention qui incarnent l'expérience Sounou dans 17 pays. Bonne année!